Seigneur Jésus, qui suis-je pour ouvrir un passage aussi beau que celui-ci? Parler d'une œuvre, Seigneur, les mots me manquent. Bien franchement, l'intelligence, Seigneur, pour saisir la beauté de cet évangile, ce salut que tu as poursuivi, Seigneur. Ce salut, Seigneur, que tu désirais voir s'accomplir et nous offrir. Qui suis-je pour ouvrir ce passage, Seigneur, et partager ta parole? Seigneur Jésus, l'Évangile, la beauté de ce que tu as accompli pour moi, me fait voler, Seigneur. Me fait flotter, Seigneur. Rassure mon cœur dans les épreuves. Quand je me sens, Seigneur, de plus en plus faible, mon cœur est en paix parce que tu as tout accompli pour moi, Seigneur. Et mon âme me dit, sois en paix, ton éternité est prête. Je suis prêt, Seigneur, à tout moment, à quitter cette terre, à quitter cette vie, parce que je sais que mon Sauveur me prépare une place au ciel, qu'il m'a acquis un salut à grand prix, Seigneur. Je suis en paix avec Dieu, je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec toute mon histoire, Seigneur, parce que tu l'as lavé par le sang de Christ. Seigneur, je te prie de venir nous remplir de ton Esprit Saint ce matin. Viens parler à nos cœurs, viens ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous voyions, Seigneur, la beauté de ton évangile. Que nous voyons, Seigneur, ta détermination pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés et réconciliés avec ton Père. Seigneur, je te prie, s'il y a au milieu de nous et dans une foule de ce nombre, il y a, Seigneur, certainement des gens au milieu de nous qui ne connaissent pas personnellement Jésus-Christ. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux de leur cœur afin qu'ils apprécient pour une première fois ce que tu leur offres, Seigneur, et qu'ils boivent cette coupe à leur tour, Seigneur. Qu'ils acceptent ton sacrifice en leur faveur, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, je vous invite à écouter. On va écouter Matthieu 26. Stéphane va nous lire les versets 14 à 29. Et puis ensuite, mon épouse va nous lire le passage dans Jérémie.
Matthieu 26, 14. Alors, l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai? » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel. » Et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Jérémie 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. « Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit » jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché.
Amen. C'était la parole de Dieu. Merci. Merci Stéphane. Merci chérie. C'est un passage absolument magnifique avec plusieurs références à d'autres passages dans les Saintes Écritures. Une des choses qui frappe lorsqu'on commence à étudier ce texte, c'est de voir à quel point Jésus était conscient de ce qu'il venait accomplir. Jésus était conscient qu'il venait accomplir les temps, qu'il venait accomplir les prophéties, qu'il venait accomplir, que se réalisait dans ce qu'il allait faire en s'offrant à la croix, se réalisaient des prophéties tellement importantes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer cette semaine et dimanche prochain sur le même passage dans Matthieu. Ce matin, on va regarder ensemble surtout le pardon des péchés qui nous est offert. On va s'arrêter sur ça. La semaine prochaine, on va regarder davantage l'alliance dans laquelle nous sommes invités à entrer. Ça, on va voir ça plus la semaine prochaine. Cette semaine, on va aller un petit peu dans Jérémie 31, comme on l'a lu. Maintenant, j'aimerais ça vous encourager pendant la semaine à aller lire, si vous voulez prendre ça en note, Exode 24:8. Exode 24:8 et méditer sur Matthieu 26, le passage, Exode 24:8, méditer sur le parallèle, qu'est-ce qui est en train de se réaliser là? Ésaïe 53, spécialement la fin d'Ésaïe 53, d'accord? Alors Jérémie 31:31-34, Exode 24:8, Ésaïe 53, la fin du chapitre 53, tout spécialement. Et pourquoi je vous envoie dans ces passages-là, pourquoi est-ce qu'on va s'y tourner? C'est d'une part, pour apprécier la beauté de ce que Christ a accompli pour nous à la croix, mais d'autre part, pour réaliser, essayer d'entrer dans l'esprit de Jésus. Ce que Jésus est en train de vivre au moment où il se dirige à la croix, il a conscience de ce qu'il est en train d'accomplir. Il a conscience de ce qu'il est en train d'accomplir. Et c'est la première chose que je veux voir avec vous ce matin dans le passage. Jésus a été déterminé, Dieu a été déterminé à venir nous offrir le salut. Jésus-Christ savait ce qu'il attendait et c'est avec détermination qu'il s'est dirigé à la croix, intentionnellement, envers et contre tous, pleinement conscient de ce qu'il allait faire, afin que vous, et moi, nous puissions être sauvés. Si vous venez à l'Assemblée ici depuis un bout de temps, vous entendez parler de l'Évangile et vous n'êtes pas encore tombé à genoux devant ce que Christ a accompli à la croix pour vous, peut-être que vous avez l'impression des fois que Dieu est loin. Dieu dirige la terre, puis vous prenez le journal et vous lisez les journaux, puis vous dites, mais où est-ce qu'il est? On a parlé d'Haïti, mais où est-il? J'aimerais que vous appréciez ce matin à quel point Jésus-Christ était intentionnel et déterminé pour venir nous offrir ce salut merveilleux. Regardez avec moi un tout petit peu plus tôt dans Matthieu 26, les versets 1 et 2. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Jésus le sait et Jésus fait une prophétie. Je veux dire, si ça ne se passe pas dans 2 jours, Jésus est menteur. Jésus est un faux prophète. Alors, écoutez ce que Matthieu nous rapporte tout de suite après. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. N'est-ce pas? On est dans une domination romaine. Alors, les chefs religieux ne voudraient pas qu'il y ait des pour et des contre, ceux qui sont pour Jésus, ceux qui sont contre, et qu'il y ait un tumulte si jamais ils procédaient à l'arrestation de Jésus pendant cette fête. C'est le moment crucial de l'année. Israël monte à Jérusalem. La population se multiplie dans la ville, d'accord, pendant quelques jours. Et s'il fallait que les foules soient troublées par cette question, certains voyant en lui un prophète, d'autres voulant le rejeter, bien les Romains interviendraient et séviraient. Et là, les chefs religieux seraient dans le trouble. Alors, ils disent, on veut le faire, organisons ça, il ne faut pas que ça se passe pendant la fête. Jésus a dit, ça va se passer pendant la fête. Jésus l'a annoncé. Verset 14, alors l'un des 12, voyez-vous ce qui va se passer, c'est que les chefs religieux cherchent comment s'y prendre, ils ne veulent pas que ça se fasse pendant la fête, mais là ils vont avoir une offre qu'ils ne pourraient pas refuser, qui va leur être présentée. Alors l'un des 12, verset 14, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? » Alors par exemple, ils ne pouvaient pas refuser une offre comme cela. Écoute, si on peut faire ça, peut-être en cachette, peut-être qu'on peut se débrouiller pour que ça ne produise pas une révolte dans la ville ou quelque chose comme ça. Jésus a dit que ça allait se passer là. Parce que Christ, à travers le symbole de la Pâque, s'en vient accomplir un salut plus grand. Ça doit se passer là. Ça va se passer là. Alors il vient, puis leur offre, il lui paya 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Voyez-vous, il y a Jésus qui annonce que ça s'en vient, il y a Jésus qui prophétise que ça va être là. Les Écritures annonçaient que ça allait être là, mais il y a d'autres agents dans cet événement-là. Il y a les chefs religieux qui sont des agents extérieurs, qui ont leur agenda à eux, qui disent « Non, il ne faudrait pas que ça se passe là. » Oui, OK, s'ils avaient pu négocier avec Jésus, ils auraient dit « On est d'accord pour t'arrêter puis te faire mettre à mort. On a un deal ensemble, mais il ne faudrait pas que ça se passe maintenant. » Et un autre agent intervient avec son agenda à lui. On l'a vu ensemble il y a quelques semaines, il trahit Christ et veut se faire un peu d'argent, c'est une vente de feu. Combien de vous prêts à me donner? Je veux dire, ils ont fait un mauvais deal, il aurait pu donner 5 pièces d'argent, il l'aurait vendu pour ça. Alors maintenant, lui a son agenda, il cherche le moment favorable. Quand sera le moment favorable? Verset 17, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Et il répondit, « Allez à la ville, chez un tel... » Et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Mon temps est proche, c'est là que ça va se passer, les amis. Jésus-Christ va s'assurer que ce qu'il a dessiné, ce qu'il a eu comme dessein avec son Père depuis toute éternité, s'accomplisse selon les prophéties. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples parce que mon temps est proche. Alors, ils organisent le repas de la Pâque et puis ils vont célébrer le dernier repas de la Pâque. Maintenant, il y a un complot qui est en train de se manigancer dans le dos de Jésus. Et si Christ n'avait pas dévoilé ce complot, on aurait pu rester avec l'impression de dire, « Boy, c'est un bon gars, c'est un faiseur de miracles, un homme sage, un gars qui, écoutez, dans les évangiles, on voit qu'il y a une sagesse comme ça. Ça a été rare dans l'histoire de l'humanité. Mais les choses ont comme dérapé à la fin. Il y a eu un traître parmi les siens. Il s'est fait arrêter, il s'est fait crucifier. Puis, boy, il aurait pu faire des belles affaires si on y avait donné 30 ans de plus à enseigner. C'est pas comme ça que ça se passe. Verset 20, le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, « L'un de vous me livrera. » Christ n'a pas été pris au piège, mes amis. Christ s'est livré. n'y a pas personne qui a forcé Jésus-Christ à se rendre à la croix. Ils auraient pu tout simplement lui demander « Veux-tu, s'il te plaît, venir te laisser crucifier? » Et il aurait dit oui. Pendant qu'il mangeait, verset 21, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés. C'est la première fois que Jésus annonça à ses disciples, la trahison va venir d'ici. Alors, ils commencent tous à poser des questions. Puis en fait, la question est à la négative en grec. « Ce n'est pas moi, Seigneur, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, Seigneur, n'est-ce pas? » Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » C'est pas encore très clair parce qu'en principe, ils vont tous mettre la main dans le plat. C'est comme ça qu'on mangeait un festin semblable à l'époque. Et Jésus dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Les choses sont ainsi parce que mon Père et moi avons planifié de rendre possible votre salut depuis des temps immémoriaux. Et rien ne pourra faire obstacle à ce que je sois sacrifié, crucifié pour votre salut. Christ s'en vient accomplir ce que son Père et lui ont planifié depuis des temps immémoriaux. Jésus-Christ a conspiré pour vous offrir le salut. Est-ce que je peux le dire comme ça? Il y a eu une conspiration céleste qui ne permettrait pas que cette conspiration soit renversée. Personne ne pourrait s'opposer à ce que les choses s'accomplissent comme le Père et le Fils et l'Esprit l'ont conçu. C'est écrit, cela va s'accomplir, je mourrai sur une croix pour vous. Le Fils de l'homme s'en va, verset 24, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Verset 25, Jésus qui le livrait prit la parole et dit, Est-ce moi, Rabbi? Et Jésus donne une réponse un peu équivoque qui dit, selon ta parole. C'est ça qu'il dit. Tu l'as dit. Jésus connaît celui qui tente de le piéger. Jésus connaît le complot. Jésus n'a pas été piégé. Jésus a accompli ses projets pour vous et moi. Et lorsque nous chantons la beauté et la gloire de l'Évangile, nous chantons la beauté et la gloire de celui qui s'est offert librement en sacrifice pour vous et moi. Comment répondrons-nous à cette offrande volontaire de la part de Jésus? Verset 26 et suivant, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Écoutez toute la lucidité de Jésus, c'est fascinant. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Les disciples n'ont pas idée de ce qui est en train de se passer, mais Christ est là et dit, c'est mon dernier repas avec vous, les boys. Et on est en train de célébrer la Pâque et tout est en train de s'accomplir. Ce qui avait été annoncé à travers tous ces sacrifices et tous ces repas de Pâque dans l'Ancien Testament, je vais l'accomplir enfin pour vous, pour le pardon de vos péchés. Alors, si vous avez le sentiment que Dieu est loin de vous, sachez une chose. Dieu a conspiré pour votre salut. Dieu a mis tout en œuvre de telle sorte à ce que rien n'aurait pu faire obstacle à ce que nous puissions être sauvés de nos péchés. Deuxièmement, Jésus-Christ offre sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Tournez avec moi dans Matthieu 1. D'accord? On arrive à la fin de l'évangile de Matthieu et il nous faut réaliser que c'était les desseins de Dieu. C'était comme ça que Dieu le voulait. Jésus est venu pour cette raison-là précise. Il a enseigné plein de choses. Mais il est venu sur terre pour ce moment, ce qui va se produire là. Matthieu 1, 23. C'est l'ange qui annonce pourquoi ce fils va naître. Et il dit, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est Dieu incarné en chair au milieu de nous, qui se présente au milieu de nous. Verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu parmi nous, qui a été envoyé dans un but précis, sauver son peuple de ses péchés. Nous sauver de nos péchés, nous offrir ce salut éventuellement. Maintenant, comment est-ce que Jésus-Christ nous sauve de nos péchés? Vous avez un ami qui vit une vie tout croche. Vous le regardez prendre des décisions, puis dans son couple, au travail, dans sa carrière, dans sa santé, vous le regardez prendre des décisions, puis vous dites, sa vie est dans un processus d'autodestruction. C'est comme s'il complotait lui-même pour détruire sa propre vie. Vous voyez qu'il vit dans le péché, non pas comme si vous le regardiez avec mépris, comme si vous disiez, « Bon, lui est dans le péché. » Non, c'est pas ça. C'est une vie moribonde, une vie tout croche, une vie qui ne construit pas, des mariages qui ne tiennent pas, des unions qui s'en vont comme le vent l'emporte, des relations familiales tout croche, des relations de travail remplies de mensonges, de vols, de fraudes, de compétitions malsaines, des fraudes envers l'État, de l'égoïsme, de l'indifférence envers les souffrances des gens autour de nous. L'avortement, le meurtre de ses petits-enfants. Vous voyez des gens comme ça. Comment est-ce que Jésus peut nous sauver de nos péchés? D'accord? Ces péchés-là nous amènent dans des vies misérables. Est-ce que Jésus va venir réformer nos vies? J'ai une mauvaise vie. Je fume ma dope. Je change de blonde à toutes les semaines. Là, je suis en train de vous parler d'Yannick il y a 20 ans. Je ne sais pas, je suis voleur. Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Est-ce qu'il va réformer ma vie? Est-ce que Jésus va me prendre et va dire, « Regarde Yannick, j'ai un camp de réforme pour toi. J'ai un camp de réforme et si tu viens là, je vais prendre cette vie tout croche. Tu n'es pas capable d'être fidèle à une femme, Yannick. Tu passes ton temps à convoiter la première fille qui passe sur la rue. Je vais t'amener dans un camp, puis je vais te donner un cours et je vais réformer ta vie. Je vais changer ta vie. Je vais t'enseigner des principes pour changer ta vie. Est-ce que c'est comme ça? Il pourrait me sauver de mes péchés comme ça, non? Je veux dire, s'il amenait ma vie à avoir une vie sainte, sans péché, on pourrait dire que Jésus m'a sauvé de mes péchés. Il a réformé ma vie. Et voyez-vous, certains d'entre vous, vous venez à l'Église, vous lisez la Bible en demandant à Dieu de réformer votre vie. Vous dites, enseigne-moi des principes de sagesse qui vont m'aider à être différent. Et là, je vais être sauvé de ma vie de péché. Certains d'entre vous, vous attendez une réforme dans votre vie. Et vous allez vers les Écritures, puis vous dites, il y a de la sagesse là-dedans. Ça a été donné depuis des temps immémoriaux. Je vais me tourner vers les Écritures, je vais lire les Proverbes. Les Proverbes me donnent de la sagesse. Ils me disent avec qui m'associer, avec qui ne pas m'associer, quelle sorte de comportement avoir. Et Dieu va réformer ma vie. Malheur à vous. Malheur à vous si vous tentez de prendre la Bible et de changer votre vie simplement en suivant tout ce qu'elle enseigne. Vous prenez tous les principes de sagesse dans les Écritures et vous dites, « Vas-y, change-moi avec toute ta sagesse. » Je vous le dis, c'est insupportable. C'est impossible à porter comme fardeau. C'est impossible à porter. Jésus va vous dire à un moment donné, « Aime tes ennemis. » Fais-leur du bien, bénis-les. Arrête d'accumuler de l'argent, donne de ton argent pour les pauvres. Arrête de marcher dans le péché, arrête de convoiter les femmes. Non, va pas juste vers une autre femme, arrête de les convoiter quand ils passent. Et avant longtemps, vous allez avoir, mes amis, des fardeaux, des fardeaux, des fardeaux. Vous allez dire, mais la religion, c'est quoi cette affaire-là? Je suis encore plus misérable depuis que j'essaie d'obéir à toutes ces lois pour changer ma vie. Je suis incapable de ça, mais je suis misérable d'avoir porté tous ces fardeaux. Est-ce que c'est comme ça que Christ est venu sauver son peuple de ses péchés en réformant sa vie? Matthieu 26. Verset 27, Matthieu 26, 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu parmi nous, qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Mais Jésus-Christ vient nous sauver de nos péchés en nous offrant d'être pardonnés de nos péchés. D'abord et avant tout. Jésus-Christ nous offre d'être pardonnés, purifiés, lavés de tout péché. Et c'est ainsi qu'il nous sauve de nos péchés. Après ça, il va commencer à nous transformer. Jésus-Christ est venu nous offrir le pardon de nos péchés. Et lorsqu'il me pardonne, son esprit vient habiter en moi, je sais que je suis réconcilié avec Dieu et ensuite il va commencer à me transformer. Mais ce qui me sauve, ce n'est pas une réforme dans ma vie, c'est le pardon qu'il m'offre par son sacrifice. Et certains d'entre vous, vous vous posez la question, pourquoi est-ce que le sang devait être versé pour que Dieu puisse me pardonner? Je sais, je l'ai entendu, la question. Je veux dire, moi, je n'ai pas besoin de sacrifier quelqu'un pour pardonner. Si j'avais un accrochage avec Bruno, puis je ne sais pas, il ne file pas un matin, puis il me rentre dedans, puis j'avais à lui pardonner, est-ce que j'ai besoin qu'il y ait du sang versé pour lui pardonner? Je veux dire, moi, j'irais vers Bruno, puis je le regarderais, puis je dirais... Es-tu vraiment pire que moi? À un moment donné, c'est moi qui vais y en devoir une. Et voyez-vous, pour nous, comme êtres humains, pardonner, ça devient en quelque sorte donnant-donnant. Ça devient en quelque sorte un échange de bons procédés. J'ai un accrochage avec mon épouse, je la considère, puis je la regarde, puis je dis, elle pécheresse, je suis pécheur, elle fait des fautes, je fais des fautes. Je vais lui pardonner, il va falloir qu'elle me pardonne de toute façon à un moment donné. C'est un échange de bons procédés. C'est donnant-donnant. Je t'en donne un, tu m'en donnes un, je te pardonne, tu me pardonneras. Non, c'est pas comme ça. Honnêtement, c'est ça qu'on fait. On regarde l'autre et on dit, ben, il est pécheur pareil comme moi. Fait que, ben oui, j'ai un doigt, une, je vais lui pardonner. De toute façon, il va falloir qu'il me pardonne d'autres choses. Sinon, on ne s'entendra pas et ça va être la chicane tout le temps. Maintenant, ce dont on est en train de parler ici, c'est beaucoup plus que ça. Et voyez-vous, il y a même une limite à ce que je suis en train de vous dire là. Parce que s'il fallait que l'un d'entre vous m'enlève un de mes enfants et abuse d'un de mes enfants, maltraite un de mes enfants, et je vais rester poli, d'accord? Visa général, imaginez le reste. Je peux vous assurer que si vous vous trouviez devant moi, je ne serais pas capable de dire, ben dans le fond, il est un peu comme moi. Je vais y pardonner, voir qu'il me pardonne d'autres choses. Parce que moi, vous savez quoi? Je ne suis pas capable de m'imaginer en train de maltraiter un enfant. Je suis incapable. Et il n'y en aura pas d'échange de bons procédés. Je peux vous l'assurer. Je vais réclamer justice. Alors, voyez-vous, même avec nous, il y a une limite à ça. Hein? Maintenant, parlons de Dieu. Parce que ce dont il est question ici, c'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est d'être réconcilié avec Dieu. Dieu est parfait. Imaginez-vous un instant que Dieu vient vers vous et vous dit, écoute, Je sais que tu as fait quelque chose qui n'était pas correct la semaine dernière. J'ai décidé de passer par-dessus parce que sûrement que moi aussi, je vais commettre des fautes dans les prochaines semaines. Il faut que tu m'en pardonnes quelques-unes. Fait que c'est donnant-donnant. Si c'est le cas, Dieu n'est pas Dieu. Si Dieu a besoin de se faire pardonner, Dieu n'est pas parfait. Ce n'est plus de Dieu dont on parle. On est en train de parler d'un espèce d'esprit supérieur qui n'est pas vraiment Dieu. Dieu ne peut pas arriver vers nous et dire, regarde, ça va être donnant-donnant. Dieu est parfait. Il est saint. Il est pur. Il est juste. Et ce que je demande, c'est d'entrer en communion avec cet être parfait. Ce ne sera pas un échange de bons procédés ici. Pas comme on l'entend entre nous. Il va falloir que la justice soit rencontrée pour qu'il me pardonne. Et il y a quelque chose de profondément rassurant pour moi comme chrétien de savoir que la justice divine va un jour éclater dans toute sa gloire devant tous les hommes. De savoir que ce n'est pas vrai qu'on va juste passer l'éponge, mais que la justice divine pour toutes les horreurs commises sur cette terre, toutes ces horreurs vont un jour rencontrer la justice de Dieu. Ainsi, pour que Dieu pardonne, il faut aussi que sa justice soit rencontrée, parce que ce ne sera pas un échange de bons procédés entre deux pécheurs qui font des gaffes. Je veux être réconcilié avec Dieu. Et Dieu est juste, et sa justice doit être rencontrée. Et ce qu'il y a de merveilleux avec le christianisme, ce qu'il y a d'extraordinaire avec le christianisme, vous ne le trouverez pas ailleurs. Comprenez ça. Aucun Dieu, aucune religion ne vous offrira ce que Christ vous offre. C'est que Dieu, dans son infinie bonté, a décidé qu'il viendrait satisfaire lui-même cette justice en mourant sur la croix pour nos péchés, en envoyant son Fils qui, avec détermination, se rendrait jusqu'à cette croix pour que son sang soit versé, lui qui était sans péché. Ainsi, à la croix de Jésus-Christ, à cause du sacrifice, la justice, la colère de Dieu est tombée sur Christ. La justice a été satisfaite. Et à celui qui s'identifie à Christ, le pardon est possible. Et ce n'est pas un échange de bons procédés entre deux pécheurs. Si moi j'allais vers Alexandre puis je disais à Alexandre, regarde, tu passes par-dessus celle-là, tu passeras par-dessus la prochaine. Tu sais, on va garder ça comme ça. Est-ce que mes fautes seraient effacées ou elles seraient juste tassées? Mais ce que Christ nous offre, c'est sa justice. C'est que nous soyons déclarés justes, nous qui sommes coupables devant Dieu. Tournez avec moi dans Matthieu 20, 28. On est quand même un peu avant son arrestation. Voici ce que Jésus déclare. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup, pour payer le prix à notre place. Tournez avec moi dans Romains. Dans la lettre aux Romains, un tout petit peu plus loin, pour ceux qui ne sont pas familiers. Romains 5. Je m'excuse, Romains 4, 24 pour commencer. Romains 4, verset 24, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui est ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Quand Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il a dit « Amen, j'accepte ce sacrifice ». Et tous ceux qui croiront seront justifiés, déclarés justes. Étant donc justifiés par la foi, Romains 5:1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Comment allez-vous vous approprier? Comment est-ce que je peux m'approprier ce salut qui m'est offert en Jésus-Christ? Est-ce que je vais sortir mon porte-monnaie? Puis je vais dire, écoute Seigneur, je comprends que ça là, too much, je n'étais pas capable de la faire celle-là. Combien je te dois? Sortir mon porte-monnaie, puis je vais l'acheter, mon salut. Mais voyez-vous, j'aurais même pas pu être crucifié sur cette croix pour mes propres péchés. J'étais déjà pécheur. Et il fallait que le sacrifice soit pur. J'aurais jamais assez d'argent pour pouvoir acheter un tel salut. Nous avons accès à cette grâce par la foi. Tout simplement en tournant les regards vers Christ, nous disons, Seigneur, j'étais un impie. Je marchais sans la loi de Dieu dans ma vie. Je suivais ma propre loi et j'en avais rien à cirer de ta loi, Seigneur. Tu n'allais certainement pas diriger ma vie. J'étais un pécheur, moribond, incapable de me réconcilier avec toi. Et dans ta grâce, tu t'es offert en sacrifice. Je crois dans ton sacrifice pour mes péchés, Seigneur. C'est tout. C'est tout. Verset 2, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué et mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui, par lui, de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voilà ce que Jésus-Christ est venu accomplir à la croix. Jésus-Christ est venu nous offrir le salut de nos péchés, nous sauver de nos péchés. Cela ne se produirait pas en réformant nos vies. Autrement, je vous le dis, ça fait 19 ans que je suis chrétien et il reste du chemin à faire. Ce serait vraiment décourageant si Jésus m'avait dit, « Quand tu me ressembleras, tu rentreras au ciel, copain. » J'ai fait plusieurs services funéraires à date. Si c'était sur cette base-là, il n'y en a pas un qui rentre au ciel, je vous le dis. Je vous le dis. Mais dans sa grâce, ce n'est pas sur cette base-là. Ce n'est pas sur cette base qu'il m'a sauvé. Il est venu nous sauver en nous offrant le pardon de nos péchés. Et considérez de quelle sorte de pardon on parle. Tournez avec moi dans Jérémie 31. Ce n'est pas n'importe quelle sorte de pardon. Verset 33, Jérémie 31, 33. Vous voyez, j'espère que ce passage-là est un passage prophétique qui nous annonce cette alliance nouvelle avec Jésus. On va en parler davantage la semaine prochaine. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Et d'autres passages nous disent que nous sommes invités à devenir cet Israël de Dieu. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel » car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà le pardon qui nous est offert en Jésus-Christ. Dieu m'offre de me déclarer juste, en sorte que mon dossier criminel soit entièrement détruit. Nous, on est des hommes et on est faibles et on est des êtres humains. Et lorsqu'on pardonne, la tentation est toujours présente pour nous de ramener quelque temps plus tard une ancienne faute supposément pardonnée, puis tout simplement dire « Il n'a pas changé. Il n'a pas changé pantoute. Ça recommence. » Mais avec Christ, ça ne recommence jamais. Jamais Jésus-Christ va me regarder dans les yeux en disant « Ça recommence encore, mon Yannick. T'avances pas vite, copain. » Jamais. Vous savez, quand moi, je suis découragé de moi-même, puis je dis « Seigneur, je sais pas pourquoi je devrais te demander pardon. Tableau, j'avance pas. » Mais lui, il me dit « T'es juste, Yannick, parce que j'ai déjà tout pardonné. » T'es déclaré juste. Arrête de me parler de ça, c'est le passé. T'es déclaré juste, Yannick. » Oh, quelle grâce! Lui croit dans mon salut quand moi, j'y crois même pas. Quelle grâce infinie! Et vous voyez, comme chrétiens, lorsqu'on entre dans des conflits, nous ne pardonnons plus comme un échange de bons procédés. Lorsque j'ai un conflit avec quelqu'un d'autre, je ne m'en vais pas vers lui en disant « Bon, il est pécheur, je suis pécheur. » Non, ce qui vient intervenir pour me donner la force de pardonner, c'est ce que Christ a accompli sur la croix pour moi. Et là, je dis « Toi, tu m'as tout pardonné. Seigneur, tu m'as accordé la grâce de pardonner ça aussi, certainement. » En terminant, toujours dans Jérémie 31. Dieu annonce quelque chose de fantastique. Au verset 34, il dit « Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » Si vous voulez connaître Dieu, vous allez devoir passer par le sacrifice de Jésus-Christ. Vous ne connaîtrez jamais Dieu tant que vous n'aurez pas saisi ce que Christ a accompli à la croix. Ce Dieu que je connais vous est étranger. Ce Dieu merveilleux que je connais vous est entièrement étranger. Et si vous êtes dans une démarche actuellement où vous voulez connaître ce Créateur et vous lisez des traités de philosophie, vous lisez toutes sortes de livres spirituels que vous achetez dans les librairies et vous cherchez à saisir ce Dieu-là, la seule manière de le connaître, c'est de connaître son pardon en Jésus-Christ. Et lorsque vous allez tomber à genoux, devant la croix de Jésus-Christ, devant l'amour qu'il a déployé à la croix pour vous. L'Esprit-Saint va venir habiter dans vos cœurs et vous allez découvrir Dieu comme vous ne l'aurez jamais connu. Vous allez découvrir un être d'amour et de grâce et de bonté qui vous est totalement étranger. Parce que par la croix, vous allez pouvoir entrer dans cette communion avec Christ et avec Dieu. C'est ma prière pour vous. Et pour vous, frères et sœurs, qui connaissez Jésus-Christ, ma prière est toute simple. c'est que l'Esprit Saint vienne vous saisir afin que vous soyez toujours émerveillés par la grâce de Christ. N'allons pas ailleurs, les amis. Il n'y a rien de plus beau à concevoir que ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Pas d'autre recette magique, pas d'autre formule, pas d'autre livre à lire. Christ crucifié pour le pardon de mes péchés. Amen. On va prier ensemble. Comment pourrais-je, Seigneur, m'ennuyer dans l'éternité alors que je passerai l'éternité à contempler, à célébrer, à explorer, à voir de mes yeux ce qu'il y a de plus beau dans l'univers, Seigneur. Un coucher de soleil sur une plage en été est tellement pâle, Seigneur, devant ta splendeur. Seigneur Jésus, je te bénis pour le sacrifice que tu as fait, pour ta détermination sans borne, pour venir t'offrir, Seigneur, pour moi. Je ne méritais pas, Seigneur, ton sacrifice. Je ne méritais pas tant d'amour. Je ne le mérite toujours pas, Seigneur. Quel être merveilleux tu es. Seigneur, je te prie ce matin pour des gens qui seraient au milieu de nous et qui ne saisissaient pas jusqu'à présent pourquoi ton sacrifice était nécessaire, pourquoi ce sang versé, pourquoi cette scène horrifiante d'un Dieu crucifié. Je te prie par ton esprit de saisir ce matin, Seigneur. Saisir, Seigneur, nos cœurs afin que nous voyions toute la beauté de ta gloire, la beauté de ton évangile, Seigneur. Et celui ou celle, Seigneur, qui avançait dans la vie chrétienne en essayant de se charger de fardeau, de réformer sa vie à grands coups d'effort, Seigneur, qui était écrasé par le poids de la culpabilité, Seigneur. Touche-le, Jésus, ce matin. Par ton évangile et dis-lui, tu es juste devant Dieu par la foi, tout simplement. Seigneur Jésus, nous t'aimons, tu es si précieux pour nous, si précieux. Nous voulons te célébrer avec nos vies, avec notre temps, avec nos énergies, Seigneur. Et j'ai hâte d'être dans ta présence, j'ai hâte de te voir, Seigneur, de te prendre dans mes bras, de te dire combien je t'aime, Jésus-Christ. Amen. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît, on va chanter ce merveilleux évangile.